On démarre notre échange sur cette émission. Aujourd'hui, on voulait vous parler de l'écriture inclusive. On va échanger avec vous sur la question suivante. L'écriture inclusive est-elle relou ou est-elle utile? Juste avant, deux choses. Déjà, je le rappelle, parce qu'on part sur une thématique qui est quand même assez chaude, parce que c'est un sujet qui est abordé en ce moment. Donc je rappelle, pour vous tous, auditeurs, auditrices, et pour nous tous sur le plateau, cette émission, c'est une émission jeunesse dans laquelle on discute, dans laquelle nous sommes pas là pour avoir la vérité absolue, surtout sur un sujet qui est en évolution permanente. Donc on est juste là pour discuter entre nous, partager nos pensées, vous les partager à vous aussi, et vous encourager à en parler entre vous, parce que c'est ça le propre de cette émission, c'est de pouvoir discuter toutes et tous. Ceci étant dit, je vous donne une première définition globale de l'écriture inclusive, globale parce qu'elle est synthétique. L'écriture inclusive, c'est l'ensemble des manières d'écrire les mots, de construire les phrases et de conjuguer les verbes pour permettre, à l'origine, d'assurer l'égalité des représentations hommes-femmes dans la langue française. Par la suite, ça a évolué pour inclure tout le monde, mais à l'origine, au début donc, du concept de l'écriture inclusive, c'était pour représenter l'égalité hommes-femmes. Maintenant, on en parle pour inclure tout le monde. Voilà le sujet de la semaine. Donc, l'écriture inclusive est-elle utile à la langue française, bien sûr, ou est-ce que c'est relou? Déjà, premier tour de table pour vous avant de passer au micro-trottoir tout à l'heure, parce qu'on a posé des questions aux Angevins et aux Angevines. On vous a posé des questions aussi sur les réseaux sociaux et vous avez bien réagi pour certaines personnes et certains, c'est certains surtout. l'écriture inclusive, est-ce que déjà c'est quelque chose que vous utilisez? Alors si on parle grossièrement, parce qu'il y a plusieurs définitions, on va pouvoir en reparler aujourd'hui, c'est soit le fait de dire le mot au masculin et au féminin, si on fait grossier, par exemple habitant et habitante dans la même phrase, ou de mettre habitant, point médian, voilà, pour habitant, habitante, donc raccourcir les termes. Est-ce que l'écriture inclusive, c'est quelque chose déjà que vous utilisez dans votre quotidien, voilà, dans votre manière d'écrire? Astrid.
Oui, en partie, j'essaye de le faire de plus en plus. Après, moi, je viens du milieu de la littérature et des lettres, donc c'est quelque chose qu'on m'a pas appris et auquel je suis pas forcément très habituée, mais j'essaye vraiment de le faire de plus en plus parce que je suis sensibilisée à ce sujet et donc j'essaye de le faire au max.
Elisa.
Non, c'est pas du tout quelque chose que j'utilise. J'ai jamais été forcément habituée comme ça, donc c'est vrai que c'est un peu nouveau pour moi. Ça fait quelques années que je trouve ça émerge. Voilà, c'est pas encore dans mes mœurs en tout cas.
Et Célia.
Alors moi j'écris moins, en tout cas j'essaye par exemple sur le site radio-g.fr. Après je sais que je l'utilise énormément à l'oral. Par exemple quand je suis face à les élèves dans mon autre travail et que c'est un groupe mixte, et je précise bien à chaque fois. Je fais par exemple dans une phrase, je sais pas, bonjour à toutes et à tous.
Donc voilà. Tu l'appliques à l'oral. Donc
ouais.
Tu fais de l'oral inclusif.
Oui, c'est ça. Un terme.
Du langage inclusif.
Le langage inclusif.
Voilà. Il y a des mots qui existent, hein, faut les utiliser. Quelques petites questions du coup pour échanger avec vous sur cette thématique-là. Première petite question autour de cette table. On entend souvent dire que l'écriture inclusive, c'est une mode. Mais est-ce qu'on peut réellement ignorer son impact sur la perception des différents genres? Parce que là, maintenant, tu l'as dit, Elisa, ça émerge petit à petit. Il y en a qui sont au courant et qui l'utilisent depuis longtemps. Ça se démocratise de plus en plus. Pour les personnes qui vont dire que c'est juste une mode et que c'est passager, qu'est-ce que ça vous fait réagir? Ah, waouh, c'est pas français. De toute façon, ce sera pas français jusqu'à la fin de l'émission. J'ai laissé la bonne émission dans la première heure et c'est pas moi qui animais. Célia, les personnes qui disent que l'écriture inclusive, c'est une mode et que c'est passager.
Moi, je pense pas que ce soit passager. Je pense juste que vu que c'est nouveau, il y en a forcément qui ont du mal avec, mais que ça va s'introduire de plus en plus souvent dans l'écriture à venir. Mais non, je pense pas du tout que ce soit passager.
Ok. Astrid, est-ce que Astrid et Elisa vouliez ajouter un mot sur ça?
Oui.
Oui, Astrid.
Mais
elle m'a dit ouais, pourquoi pas, si j'en ai la possibilité, je souhaite m'exprimer, monsieur.
En fait, c'est nouveau, oui et non, parce que la langue française a été masculinisée au XVIIe et XVIIIe siècle, mais à l'origine, elle était beaucoup plus ouverte et inclusive. Donc dire que c'est nouveau, c'est incorrect, parce qu'elle l'était à l'origine. Son origine même est inclusive, et on a perdu ça avec le temps par... les hommes, hein, on va le dire, hein. Les hommes du XVIIe et du XVIIIe siècle ont voulu infériorisées et invisibilisées les femmes. Donc là, aujourd'hui, c'est juste revenir aux sources, revenir à cette origine pour réouvrir et inclure de nouveau les femmes, mais également maintenant tous les autres genres de la société. Donc dire que c'est nouveau, c'est faux, et donc je l'espère pas que ça va être qu'une mode et que ce sera que passager. J'espère que ça va durer et qu'on va reprendre les habitudes qu'on avait à l'origine.
Elisa, est-ce que tu veux réagir ?
Oui, parce que moi, en tant que femme qui milite pour l'égalité entre les hommes et les femmes, je ressens pas, pour le moment personnellement, le besoin d'écrire en écriture inclusive ou voilà. Voilà, pour l'instant, bah, en fait, vu que j'étais habituée à ce que le masculin l'emporte sur le féminin, bah mon cerveau, il a été
conditionné
comme ça. Voilà, exactement. Pour autant, j'aime bien quand, par exemple, je reviens sur ce qu'a dit Célia, j'aime bien quand à l'oral on dit bonjour à toutes et à tous. Mais par contre, à l'écrit, si on va dire aux habitants et pas aux habitants et aux habitantes, ou inversement, ça me dérange pas forcément. Voilà.
Parmi les différents discours, donc il y a ceux qui sont contre, donc qui disent cet exemple-là que c'est une mode et que c'est passager. Il y a aussi des personnes qui sont pour l'écriture inclusive et qui trouvent ça utile. Notamment certaines personnes qui argumentent sur le fait que ça permet d'inclure justement, de faire en sorte que des personnes se sentent exister et se sentent reconnues en utilisant les deux termes. Voilà, point barre. Est-ce que oui, non, bon, je pense que c'est un constat, donc je pense que je sais pas si vous voulez réagir dessus.
J'ai pas compris la question.
Non, c'était une phrase. Je continue.
Bah,
continue.
Du coup, oui. On a pas compris. Ouais.
je suis contente de pas être la seule.
C'est une deuxième heure difficile, hein, je vous le dis. On est honnête avec tout le monde, c'est une deuxième heure difficile. Parmi les autres questions, il y a eu une personne qui a dit la langue française a déjà évolué par le passé. Pourquoi, selon vous, il y en a qui refusent aujourd'hui ce changement ? C'est ce que tu disais, Astrid, la langue française, elle a été créée, elle a évolué, elle évoluera encore, et aujourd'hui, il y a des gens qui sont contre ce changement-là. Est-ce que vous le comprenez, le fait qu'il y en a qui ne veulent pas que ça évolue et qui veulent que ça reste à l'ancienne, ou vous le comprenez pas ? Astrid.
Moi, je le comprends pas. Enfin, si, oui et non, parce que je comprends le fait que on nous a appris comme ça, on a appris à lire et à écrire de cette manière, la langue française est comme ça, c'est de cette façon qu'on l'a apprise, et je peux comprendre le fait que ce soit compliqué de revenir sur cette habitude, sur cet ancrage qu'on a dans la langue française, mais faut savoir que le français, c'est une langue vivante, donc c'est censé évoluer, ça continue selon les usages, selon la façon qu'on a de parler, on l'a déjà vu, c'est pour ça qu'il y a de nouveaux mots qui entrent dans le dictionnaire, c'est normal, et c'est comme ça que ça vit une langue. Et donc, rester fixé sur la façon dont elle est construite et créée actuellement, en sachant l'origine de pourquoi elle a été masculinisée, que c'était juste une volonté misogyne, je trouve que c'est triste de vouloir garder cette base de la langue qui est masculinisée et de ne pas envisager cette reféminisation de la langue qui serait pourtant tellement bénéfique.
Reféminisation et peut-être à l'avenir à voir avec l'évolution, l'inclusion de nouveaux genres, nouveaux types de personnes, parce que bien sûr ça évolue et il y a plein de pronoms qu'on ne citera pas qui existent et qui se démocratisent au fur et à mesure, donc la langue française, peu importe dans quel sens, sera toujours amenée à évoluer. On est allé voir les angevins et les angevines pour poser la question, comme d'habitude, hein, quand je dis on, je dis Célia, parce qu'il fait beaucoup trop froid, du coup j'ai envoyé Célia dehors pour aller rencontrer les angevins et vous poser cette question.
Oui,
c'est vrai, il faut que je mette ton jingle. Pardon, j'ai pas l'habitude, excusez-moi. C'est pas mon émission, c'est celle de Célia.
Quelques questions dans les rues d'Angers. Au micro de Célia, j'ai la ref.
Bonjour Célia.
Bonjour. Donc, je commence du coup. Attends.
Ben oui.
C'est pas maintenant. Maintenant, j'y vais. Donc cette semaine, avec Astrid, nous sommes allés en ville, et oui, je n'étais pas seule, pour aller interroger 3 nouvelles personnes sur un nouveau thème. Et cette semaine, on vous parle de l'écriture inclusive. Dans notre société, nous tentons d'être plus ouverts en ajoutant un autre vocabulaire, le pronom personnel « iel », en incluant beaucoup plus les femmes et autres. Et aujourd'hui, l'écriture inclusive, qui est une forme d'écriture qui vise à rendre la langue française plus égalitaire en matière de genre et divise la société.
On s'est également intéressé à ce sujet en posant la question suivante sur notre Instagram gelaref-radio-g. L'écriture inclusive, est-ce que c'est relou ou c'est utile ? Dug9203 a répondu « Relou et dépassé grave, ça sert à encore plus isoler les gens entre eux et les isoler dans leur, pardon, dans leur monde d'intolérance. »
Faut préciser pourquoi tu rigoles, parce qu'on a été effarés, surpris, choqués
ouais.
quand on a préparé l'émission et, que,
voilà.
et qu'on a entendu ce commentaire.
Voilà. VCDHS a répondu que c'est utile. Et vous, l'équipe, vous avez dit ça dépend du contexte. Mais aussi, sur un mémoire, ça peut être long, mais au quotidien, c'est important d'en prendre l'habitude. D'ailleurs, quand on fait quelques recherches, on peut lire que les avis diffèrent. Selon Sabrina Matrullo, l'écriture inclusive rompt sa lecture et détruit sa concentration. Tandis que selon Hélène Viello, l'écriture inclusive permet de remettre en valeur les femmes. Quel est l'avis des personnes interrogées ? Pensent-elles la même chose ? Je n'en dis pas plus et je vous laisse écouter les réponses de Ezio, Max et Lisa. Que signifie l'écriture inclusive d'après toi ?
Pour moi, c'est le fait dans la littérature, enfin oui, donc dans l'écriture, de ne pas faire de différence en fait entre n'importe quelle ethnie ou n'importe quelle orientation, quelle que ce soit en fait.
Je ne sais pas du tout. Je m'y connais pas du tout en écriture inclusive ou quoi que ce soit d'autre comme ça. Désolé.
Pour moi, l'idée que j'ai de l'écriture inclusive, c'est la tournure de langue qui part pas nécessairement dans le masculin ou dans le féminin, mais plutôt dans le global, genre le yel.
Penses-tu que l'écriture inclusive est beaucoup utilisée aujourd'hui ?
Je pense que ça va dépendre des domaines. Je pense que par exemple dans les livres, un petit peu moins, mais dans les écritures plus courantes, genre les mails, les choses comme ça, ça va être peut-être un peu plus inclusif.
Non, je pense pas que je la vois souvent. Est-ce que les gens n'aiment pas l'utiliser ou c'est un truc nouveau, donc j'utilise juste pas.
Bah, j'ai tendance à plus la voir dans tout ce qui est réseaux sociaux et les conversations en ligne, mais sinon sur papier je la vois pas beaucoup, et même dans tout ce qui est de l'école, les trucs comme ça, c'est pas beaucoup utilisé.
Selon Sabrina Matrullo, l'écriture inclusive rompt sa lecture et détruit sa concentration, alors que selon Hélène Viello, l'écriture inclusive permet de remettre en valeur les femmes. Quel est ton avis dessus ?
Je trouve que l'écriture inclusive, c'est quelque chose de bénéfique en général. Et donc, bah, je trouve que ouais, c'est quelque chose de c'est bien, enfin, de positif.
Bah, moi, je trouve que l'écriture inclusive, d'après ce que j'ai compris, bah, c'est un truc qui permet de mieux garder de la neutralité. Donc, c'est un bon truc. Rester neutre dans les termes et pas forcément préciser femme ou homme, c'est un truc.
Je dirais pas que ça met en valeur les femmes, parce que justement le but c'est de remettre à niveau, mais après c'est sûr que d'un point de vue d'égalité, ça bah encore une fois ça met les deux sur le même pied de départ, donc ça met pas en valeur autant que ça, ouais, ça remet au niveau en fait.
Merci.
J'ai la ref en direct sur Radio G.
Merci à eux d'avoir répondu à nos questions. Vous avez pu entendre qu'ils sont d'accord pour dire que l'écriture inclusive est une bonne chose. Et vous, sur le plateau et dans les chats sur radio-g.fr ou sur Instagram gelaref-radio-g, vous en dites quoi ? L'écriture inclusive, c'est relou ou c'est utile ? Astrid ?
Bah avant toute chose, moi je voudrais repréciser quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a un raccourci qui est fait dans la pensée des gens, que l'écriture inclusive se résume ou est en grande partie liée au point médian. Et c'est pas totalement vrai, dans le sens où le point médian, en réalité, c'est juste une abréviation, c'est un raccourci qui s'utilise uniquement à l'écrit et qui n'est pas obligatoire et qui n'est surtout pas... Enfin, l'écriture inclusive peut se faire sans le point médian et donc ne rompt pas forcément la lecture. Voilà.
Tu nous avais parlé en préparant l'émission d'un livre qui a été... c'est le mois du genre à l'université d'Angers en ce moment, super mois, si vous voulez aller vous renseigner. Un livre qui a été écrit exclusivement en écriture inclusive. Cherche l'info et puis on te redonnera la parole quand tu l'as trouvée. Astrid, ok, tranquille, prends le temps.
Elisa, relou, non, c'est pas relou. Utile, si les personnes qui l'utilisent, ça leur fait du bien, elles ont besoin de ça, il y a pas de souci, genre vraiment ça dérange personne. Et juste pour revenir, ce que tout à l'heure je voulais juste revenir sur ce que t'as dit, Fadi, c'est les gens qui disaient oh je vois pas l'intérêt, il y a des gens qui sont contre. Oui, mais en fait, faut pas s'occuper de ça, parce que de toute façon, dans tous les problèmes de la vie, il y a tout le temps des gens qui sont contre, l'avortement, tout ça. Donc en fait, je pense qu'il faut pas s'occuper des gens qui sont contre. Si nous, ça nous fait du bien, y a pas de souci et on dérange personne, en fait. Voilà.
C'est clairement le... Pardon, j'ai pris la parole alors que c'est Célia qui parle. C'est bon ou je flingue cette deuxième heure, là qu'est-ce qui se passe?
Non, mais j'allais t'interroger, toi, Fadi.
Ah, ok, cool, merci. En plus, tu m'interroges pour que je dise vraiment que je rejoins ce qu'Elisa a dit, parce que j'allais clairement dire, en vrai, pour les gens qui sont réticents ou pour les gens qui sont pour, alors moi je trouve ça utile perso, mais pour les gens qui sont réticents ou les gens qui sont pour, dans tous les cas on s'en fout, parce que c'est propre à soi, c'est pour sa consommation personnelle, c'est pour sa lecture et son écriture personnelle. Si jamais c'est trop dérangeant d'un point de vue lecture, etc., et ben il y a d'autres versions, et puis il y a justement, c'est la possibilité de la langue française à de l'adapter pour pouvoir avoir une lecture ou une écriture qui vous convient, et c'est le plus important, je trouve. Mais à mon sens, c'est quand même utile pour pouvoir se reconnaître, mais les rageux, bah, rager, et puis aller lire des choses qui ne sont pas inclusives, et de toute façon, on va pas vous abattre pour ça, normalement. Je sais pas.
Astrid ? Ben, j'ai retrouvé le nom du livre que vous m'avez demandé.
Bravo Astrid !
Oui ! Ça s'appelle Sex, Love and Letters, et c'est un essai écrit par Judith Coffin sur les lettres que s'échangeait Simone de Beauvoir avec c'est son lectorat. Et en fait, ça a été traduit par Lorraine Delaveau et Marine Vasselin, qui ont toutes deux travaillé dessus et donc l'ont traduit complètement en écriture inclusive.
Voilà pour la ref, si vous voulez aller vérifier.
Eh ben, merci à tous d'avoir participé à ce débat. C'était le débat de la semaine. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau débat sur Radio G au 101.5 FM.